Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Je suis très heureuse de passer avec vous cette nouvelle soirée d'échange et de réflexion, toujours inattendue, comme le veut le principe de la libre antenne. À propos d'inattendu, la période des vacances, avec sa part de liberté retrouvée, nous confronte très souvent à quelque chose que nous n'osons pas forcément nous avouer, mais que tout le monde ressent, la peur de l'inconnu. Les vacances seraient donc source d'une certaine anxiété ? Oui. L'inconnu auquel nous pensons spontanément est le pays étranger, la rupture des habitudes, les relations humaines vécues sur un mode différent. Cette forme d'inconnu génère, c'est vrai, une appréhension, mais que nous surmontons en général assez vite grâce aux formidables capacités d'adaptation de l'esprit humain. Mais il existe, dans le phénomène des vacances, une autre peur de l'inconnu, plus profonde, celle qui nous met face à nous-mêmes. Toute l'année, nous fonctionnons sur le mode du devoir. Il faut faire ceci, penser à cela. En vacances, les contraintes se lèvent et nous sommes invités à fonctionner sur un autre mode, celui du désir. Fais ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui a du sens pour toi. Mais soudain, une sorte de vertige nous prend. Mais qu'est-ce que je désire ? Et une série de pensées anxieuses. Maintenant que je ne peux pas me cacher derrière le devoir, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je ne vais pas tout gâcher ? Est-ce que je vais réussir mon rendez-vous avec moi-même ? Soyez tranquille, nous sommes tous pour part des inconnus à nos propres yeux. Mais si nous ne reculons pas devant la découverte, si nous nous laissons libres d'apprivoiser, de créer, de ressentir, nous faisons l'expérience que notre désir, pour nous rendre heureux, est la meilleure des boussoles. Je suis Sabine Calégari, psychanalyste, et jusqu'à minuit, je suis là pour vous sur RTL, au 09 69 39 10 11. Sarah et Théo vous accueillent dès le standard. Si vous préférez réagir à ce que vous entendez, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook RTL-parlons-nous. Oriane Leport veille à la réalisation. Nous pouvons commencer. Bonsoir Pam.
Oui, bonsoir.
Eh bien, bonsoir Sabine. Pam, je vous écoute. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Oui, en fait, moi, je souhaitais vous appeler parce que c'est vrai que je vous écoute depuis que vous êtes un petit peu à l'antenne. Là. Mmh. Et j'aime bien votre analyse. Enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Moi, j'ai un petit problème. Mmh. Enfin, disons que c'est notamment par rapport aux hommes que je rencontre. Mmh. Je me mets systématiquement en position inférieure ou en fait je me saborde un petit peu, quoi.
Ça vous est arrivé plusieurs fois ? Vous parlez des hommes au pluriel, vous avez l'impression que c'est un scénario récurrent ?
Oui, tout à fait, moi. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, ça se passe bien. Et puis ensuite, je commence à tomber, à me mettre hyper en demande, à faire un peu ma groupie, quoi. Et je suis consciente du fait que ce soit pas... attractif, quoi, vous voyez. Mais je sais pas, je fonctionne comme ça.
Et vous semblez dire que c'est pas d'emblée, dès le début de la relation. Il y a d'abord un temps pendant lequel ça s'engage, disons, normalement.
Oui, ouais, ouais, c'est vrai.
Vous pensez que... Est-ce que vous avez déjà repéré le point de bascule, c'est-à-dire quand ça commence à tourner au mode groupie, comme vous dites?
C'est assez rapide, quoi.
Oui. Ouais. Ouais, dès que la relation commence à compter pour vous, par exemple ?
Oui, voilà. Mmh. Dès que je commence à avoir peur de que ça s'arrête ou...
C'est ça. Dès que vous ressentez l'importance de la chose.
Ouais. Mmh. Et en fait, je me dis que parfois, je constate que je me mets en mode groupie, en demande comme ça, alors que j'en ai pas spécialement envie, mais c'est juste pour faire plaisir à l'autre, alors que je sais que c'est pas, vous voyez, je me mets en position d'infériorité.
Oui.
Alors que j'en ai même pas forcément le désir, quoi.
Oui, que c'est pas forcément votre scénario fantasmatique, on va dire ça comme ça, parce que parfois il existe des configurations dans les relations que nous aimons. Enfin, nous aimons par exemple incarner une femme enfant, nous aimons incarner. Ça, c'est des scénarios fantasmatiques qui peuvent nous apporter beaucoup de plaisir, mais vous, c'est pas ça.
Non.
C'est pas la, une position que vous voulez avoir.
Non, mais je veux pas trop. Je me dis toujours que si je suis comme je suis, si je brille trop, on va dire, enfin briller dans le sens, vous voyez si.
Oui, du rayonnement d'un être humain.
Ouais. Oui. Voilà. Et ben, je vais les faire fuir, ou alors je vais les vexer, ou je vais les blesser dans leur ego, ou je sais pas quoi.
Oui.
Vous voyez. Et du coup, je me brime un peu, en fait.
Oui. Vous avez l'idée, Pam, qu'un homme est un être susceptible ?
Ouais, ouais, c'est vrai.
D'où ça vous vient, cette idée ?
Eh ben, en fait, c'est vrai que ce que j'avais dit à Sarah, oui. c'est qu'en fait, quand j'étais plus jeune, quoi, déjà, mon père, il était très susceptible, il est très susceptible.
Ah.
Ouais.
Sur quel mode ? Comment ça se manifeste, par exemple ?
Bah, il est hyper rancunier, quoi. Il est très rancunier. Il va dire « Ah, mais il y a 15 ans, ta mère, elle m'a dit ça. »
Ah ben, en effet. Donc, ce qu'on dit, c'est gravé dans le marbre. Donc, oui. Ça a des conséquences. Ça, vous avez dû l'intégrer dans votre esprit d'enfant.
Ouais.
Qu'on ne peut pas parler à la légère, en fait.
Oui, voilà. Et qu'il ne faut surtout pas dire des choses qui pourraient être mal interprétées, quoi.
Oui, oui.
Ouais. Et il y a mon grand frère aussi, mon frère aîné, qui a 8 ans de plus que moi.
Oui.
Qui, lui, a toujours été dans le rejet avec moi, quoi, en fait, depuis très très longtemps.
Oui.
Et du coup, aujourd'hui, je me demande si le fait que je m'auto-saborde un petit peu comme ça, ça vient pas de là, quoi.
En fait, à l'arrivée, ça vous saborde peut-être, enfin, vous allez peut-être en dire un peu plus là-dessus, mais vous, à l'origine, il ne s'agit pas de vous saborder ou il ne s'agit pas d'une obscure envie d'arrêter la relation, il s'agit plutôt de l'idée d'amadouer l'autre, de ne pas l'indisposer.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Donc au départ, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas une entreprise de sabordage, au contraire, vous faites tout pour...
Oui.
Préserver
oui.
la relation sur le mode que vous avez connu.
Oui, c'est vrai.
Alors, quand est-ce que ça tourne mal et que ça tourne au sabordage, comme vous dites, dans votre relation avec les hommes ?
Ben, je ne sais pas, c'est super... c'est un moment de bascule ou de... que je n'arrive pas bien à identifier, en fait... Non, je pourrais pas l'identifier. C'est peut-être quand je deviens moins naturelle et du coup, quand je m'attache trop, parce que je sais pas.
Est-ce que assez rapidement, quand la relation amoureuse commence, vous vous sentez angoissée ?
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai.
Est-ce que vous ressentez de l'angoisse ?
Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, hein, de manière générale. Hein. Je suis pas une calme.
Oui. Vous pensez qu'il y a un fond d'anxiété pour tout chez vous ?
Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Dans plusieurs domaines, en tout cas, oui, c'est vrai.
Oui.
Ouais.
Et dans les liens, en général, au-delà du lien amoureux ?
Ouais. C'est marrant, ouais. Vrai, j'avais pas étendu... Mais c'est vrai qu'en amitié aussi, je mets pas mal d'enjeux, quoi. Enfin, disons que je suis toujours un peu dans l'insécurité, ouais, c'est ça.
Oui.
Ouais, voilà, je suis toujours un petit peu dans l'insécurité. J'ai besoin que mes amis, IE, hein, je parle,
oui.
IE,
oui.
Qu'elles soient rassurantes, quoi, souvent. Oui.
Qu'elles vous rassurent sur quoi ? Sur le fait qu'elles tiennent à vous, à la stabilité ?
Ouais, voilà, ouais.
C'est que vous faites bien, que...
Oui, c'est ça.
Oui. Et ensuite, donc vous dites que vous n'identifiez pas bien le point de bascule. Donc vous, la relation amoureuse, même si vous la souhaitez, j'imagine, ça doit être également quelque chose de douloureux pour vous. Si vous avez toujours cette anxiété qui est présente, ça doit vous empêcher d'être dans la joie, dans la légèreté.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je me souviens, par exemple, quand j'étais plus jeune, c'était un petit moment. J'avais fréquenté un garçon comme ça qui disait des choses du genre « Ah, maintenant que je t'ai rencontré, je peux mourir » ou des trucs comme ça, vous voyez.
Donc des choses fortes.
Oui, des choses assez fortes.
Oui.
Et en fait, il m'avait quitté par SMS, quoi. Enfin, à l'époque, c'était pas les SMS, mais c'était, enfin, c'était par SMS, quoi.
Par message, quoi.
Ouais, ouais, par message, ouais.
Et elle avait duré combien de temps, cette relation-là, à peu
elle
près?
Elle avait été hyper courte, quoi. Enfin, peut-être 2 mois, quoi.
Oui. Et vous, ce souvenir, vous pensez qu'il a laissé une marque?
Ouais. Oui, et puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai l'impression, en fait, que du coup, ça se répète et tout. Ou alors que. Aussi, j'ai une impression, en fait, que ce que je ressens, en fait, par exemple, vous voyez, ce que je peux ressentir moi, j'ai l'impression que c'est partagé. Et en vérité, ça ne l'est pas. Et du coup, je me dis, ah bon, mais alors finalement, ce n'est pas partagé. Donc finalement, où est la bonne lecture de la situation, quoi?
Est-ce que c'est juste de dire que ce qui vous inquiète, Pam, c'est que vous ne savez pas sur quoi vous repérer pour lire l'autre? Enfin, vous ne savez pas quel signe vous saisir? Est-ce que vous pensez que vous êtes un peu en train de guetter les signes en vous demandant ce que ça signifie sur la position de l'autre et que tout ça vous semble assez mystérieux?
Ouais, oui, oui, peut-être, je sais pas. Je sais pas trop, quoi.
Parce que
mais
ça...
J'ai l'impression que c'est
oui,
vrai,
allez-y, oui. Allez-y.
Non, allez-y, vous.
C'est que, en fait, cette première rupture, enfin, je ne sais pas si c'était la première, mais cette rupture de jeunesse vous a semblé énigmatique. Parce que cet homme vous a dit des choses très fortes, un peu sur le mode voir Venise et mourir.
Oui.
Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la rencontre de ma vie et ma vie s'est accomplie, donc quelque chose d'extrême, pour ensuite vous quitter. Donc ça, c'est resté énigmatique pour vous.
Ouais, c'est vrai.
Vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pour que ça marche comme ça?
Ouais. Et l'autre fois, vous savez, vous disiez à une autre auditrice, je me souviens plus comment elle s'appelait,
oui.
Elle avait pensé que du coup, c'était peut-être parce que ça s'était pas bien passé sexuellement et tout ça, et que
ah,
du coup,
oui.
Elle s'est demandé. Moi, je me suis demandé longtemps si c'était ça hein, aussi. Je me suis reconnue dans cette interprétation-là, quoi. Parce que
oui.
C'est vrai, je m'étais demandé ça. Je m'étais dit peut-être que c'est là où ça s'est pas bien passé. Du coup.
Vous savez, ça, c'est une caractéristique de l'esprit humain. L'esprit humain ne supporte pas l'énigme, parce que l'énigme, c'est le vide de sens. Donc, en général, on est mieux avec une explication, même négative, même dévalorisante pour nous, que face à l'énigme, c'est-à-dire pas d'explication du tout. Donc c'est vrai que c'est assez féminin, quand on ne sait pas, de chercher une explication de notre côté, sur le mode « je n'ai pas su le satisfaire, sexuellement je n'ai pas su être à la hauteur ». Voilà, au moins ça fournit une explication. Paradoxalement, on a l'impression que c'est une calamité parce qu'on en souffre beaucoup. Mais pour l'esprit humain, c'est moins douloureux d'avoir une explication que pas d'explication du tout, même une explication négative. Mais parce que ne pas savoir du tout, ça rend l'autre complètement étrange et ça fait qu'on hésite à s'aventurer sur les terres du lien.
Oui, c'est vrai, oui.
Et voilà. Ensuite, Pam, donc les autres relations, quand vous dites qu'il y avait une certaine répétition, est-ce que ça s'est engagé sur le même mode, assez passionné au début, pour rompre brutalement, ou c'était un autre type de scénario?
Non, c'est toujours un petit peu le même scénario. C'est-à-dire qu'au début, ça s'enflamme assez vite. Enfin,
oui.
Disons qu'il y a quelque chose qui a l'air de voilà une complicité qui naît, qui match et tout ça.
Mmh.
Et puis assez rapidement c'est vrai, assez rapidement il y a l'autre, enfin du coup l'homme là en l'occurrence,
oui. Oui.
se détourne finalement se détourne de manière, je dirais, de manière assez, comment dire, assez surprenante, quoi, sans réelle raison, quoi. Un peu sur le même mode que cette première rupture, effectivement, énigmatique. C'est-à-dire, il y a une prise de distance tout d'un coup qui est pas très lisible, quoi, pour moi. Voilà.
Et à chaque fois, vous n'avez pas eu de signe avant-coureur, à chaque fois, ça vous laisse perplexe.
Ouais.
Et vous pensez que c'est vous qui avez causé ça par votre position d'infériorité, donc vous en êtes arrivé à conclure que c'était du fait de votre peur.
Voilà, j'arrive à une conclusion qui est assez négative pour moi.
Oui.
Et du coup, c'est pour ça que je me dis, mais c'est que finalement, peut-être que comme j'ai peur que ça se reproduise, eh ben, j'en fais trop ou pas assez. Oui. Vous voyez, mais je suis plus dans un juste milieu.
Oui.
Je suis un petit peu en panique, en fait. Ouais.
Je comprends. En fait, Pam, à l'état naturel, vous plaisez beaucoup aux hommes, manifestement, puisque vous dites que tous ceux que vous rencontrez, ils tombent amoureux de vous, ils sont assez enflammés. Donc, à l'état naturel, vous leur plaisez beaucoup?
Bon, ça va un peu, quoi, oui. Ça va, ouais.
Oui. Donc ça, c'est peut-être de nature à vous rassurer, à vous donner un premier point d'appui. Parce que vous semblez pas avoir de difficultés à plaire, à séduire, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce que vous dites là, quand un homme entre en relation avec vous, très vite, il est enflammé, comme vous dites, il est impliqué.
Oui.
Et il vous déclare des sentiments, tout au moins des émotions. Donc ça, d'évidence, vous avez un point de contact avec le masculin. Enfin, vous plaisez aux hommes. La version de femme que vous incarnez, c'est leur plaît.
Oui, mais après, pas sur... Oui, c'est vrai. Mais du coup, ce qui m'angoisse encore plus, c'est pas tellement sur le long terme. En fait.
Oui, mais peut-être... Alors, s'il n'y a pas d'autre explication que chaque fois vous êtes face à l'énigme, peut-être que justement, à partir du moment où vous perdez ce naturel et que vous entrez dans une posture telle que vous l'avez connue dans votre enfance, peut-être qu'ils ne vous reconnaissent pas. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas la jeune femme dont ils sont tombés amoureux.
Ah oui.
Supposons qu'ils aient été séduits par... par votre naturel, peut-être par votre vivacité, peut-être par vos qualités propres. Et ensuite, votre peur de déplaire à l'autre vous amène à inhiber ses qualités. Donc peut-être que lui, l'homme, il ne vous reconnaît plus, il ne retrouve plus celle dont il est tombé amoureux.
Oui, c'est vrai, oui.
Donc la question, ouais. Pour vous, c'est comment pouvez-vous rester dans ce naturel, déjà en lui faisant confiance, parce que d'évidence, les débuts de relation se passent bien.
Oui.
Donc au naturel, tout va bien.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ce serait plus simple en plus pour tout le monde.
Mais bien sûr, pour vous aussi, ça vous donnerait un peu plus de légèreté, ça vous permettrait de profiter de la relation. Alors, vous voulez bien en dire un peu plus de ce qui s'est passé avec votre père ?
Oui, alors avec
entre vous
père,
et votre père.
Mon père et mon frère, en fait.
Oui.
Ouais. Si vous voulez, mon frère, il a toujours été dans le rejet comme ça. Et du coup. Moi, je me disais, mais votre interprétation elle est sans doute bien meilleure que la mienne.
Pas sûr. C'est vous qui savez pour vous-même, pas moi. Je fais des hypothèses avec vous, mais le savoir sur votre être, c'est vous qui l'avez.
Mais en fait, oui, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est à cause de lui, en fait, que j'arrive pas à avoir une vraie relation avec quelqu'un d'autre. Enfin, je me suis dit ça récemment, hein, d'ailleurs, en me disant finalement, à cause de mon frère plus que de mon père, mais peut-être que mon père a plus d'importance, je ne sais pas. Mais alors, vous voyez,
peut-être
le fait
que
d'être
vous
toujours...
Avez... Oui,
ouais.
Allez-y.
Le fait d'être toujours un petit peu... repousser comme ça, bah justement, ça m'inhibe, en fait. Oui.
Alors,
ça provoque chez moi un repli, quoi.
Je pense que vous avez raison dans votre interprétation, parce que quand on est mal accueilli par l'autre, c'est sûr que c'est difficile d'avoir un élan vers lui. Ouais. Donc peut-être que votre frère vous présente une image assez redoutable ou rebutante de l'homme. C'est quelqu'un qui peut vous rejeter, vous blesser. Mm-hmm. Donc vous pouvez faire attention à ce que rien ne dépasse, comme on dit, pour ne pas attirer de ce type de foudre. Mm. Mais quand même, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose du côté de votre père, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il était très susceptible et que chaque phrase pouvait avoir de lourdes conséquences longtemps. Vous savez, le père, c'est le premier homme de notre vie. Peut-être il y a quelque chose. Quelle relation aviez-vous, vous, avec votre père, la petite fille que vous étiez? Est-ce que vous aviez accès directement à lui? Comment ça se passait avec lui?
En fait, ça se passait assez bien. Ça se passait assez bien. Mais c'est quelqu'un qui s'est pas super investi, quoi. Il s'est pas super impliqué dans notre éducation. Enfin, disons que il était parfois absent et puis tout d'un coup présent. C'était un petit peu impromptu comme ça.
Ça dépendait de quoi?
Ben de, je sais pas trop de. Vous voyez, avec mes parents, ils sont beaucoup disputés, donc peut-être de sa disponibilité finalement. Mais moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec lui, en fait. Hein. Oui. Globalement, on a pas mal, on avait des discussions. Alors, enfant, je me souviens plus très bien,
il était doux avec vous?
Ben ouais, il était il était en tout cas en fait moi je c'est vrai qu'il a été un petit peu un père absent, mais il s'est rattrapé par la suite, en fait. Vous voyez,
déjà il y a une chose qui a pu vous inquiéter par rapport à votre vision de l'homme, c'est le côté arbitraire de votre père, parce que vous dites que sa présence c'était un peu quand il voulait. Alors, il avait probablement des raisons pour ça, professionnelles ou autres. Mais dans votre esprit de petite fille, c'est que dès lors, l'amour, c'est pas égalitaire. L'amour, c'est quand l'homme veut. Enfin, la présence de l'homme, c'est quand lui veut.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est pas sécurisant, par exemple.
Non, il n'était pas sécurisant.
Ouais. Ah oui. Et ensuite, donc, vous dites que... vous aviez des conversations, donc ça c'était plutôt sur le plan intellectuel, mais sur le plan affectif, émotionnel, comment était-il? Il savait exprimer ses sentiments? Il vous prenait dans ses bras? Il vous disait des choses gentilles?
En fait, il était plutôt, vous voyez... alors, en fait, moi je me souviens de... Bon, j'ai peur de ce que je vais vous dire. Ça me fait peur, mais bon... Vous voyez, je me souviens de petite où il nous taquinait un peu, il nous chatouillait, des trucs comme ça.
Oui.
Moi et mes sœurs. Mmh. Et après, c'était ça un peu la douceur, c'était ça, quoi, en fait. L'affection, c'était ça, quoi.
Donc c'était du jeu. Il pouvait jouer avec vous, mais en revanche, quelque chose de plus sentimental, ça, c'était pas son registre.
Non.
Oui. Et vous, est-ce que vous arrivez à identifier comment vous vous y preniez avec votre père? Quelle position vous avez prise? Quelle manière de faire vous avez développée?
Moi, en fait, oui, j'étais toujours un petit peu sur des œufs, quoi. Je marchais un petit peu sur des œufs.
Ben voilà. Oui.
Ah oui.
Ben oui. Vous marchiez sur des œufs parce que vous aviez déjà enfant une croyance qu'un homme, c'est quelqu'un d'arbitraire, qui peut être là, pas là, qui n'exprime pas ses sentiments, donc qui ne vous rassure pas, et qui peut être susceptible, qui peut être fâché. Donc au fond, vous avez intégré très tôt la croyance que l'homme, c'est une créature à ménager. C'est ça ?
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc difficile d'être naturel quand on marche sur des œufs.
Oui.
Et votre mère, comment était-elle, votre mère ? Comment elle était avec vous ? Comment elle était avec son mari susceptible ? Comment elles sont débrouillées, elles ?
Ma mère, du coup, elle était très frontale. Alors, ma mère, elle marche pas du tout sur des œufs, non ?
Oui.
C'est exactement l'inverse. On va dire qu'elle n'a pas du tout de diplomatie. Hein.
Oui.
Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils se disputaient fréquemment. Parce qu'en fait, vous voyez, moi, j'ai déjà entendu mon père lui dire ou me dire à moi, mais tu comprends, ta mère, elle me dit ça devant telle et telle personne, c'est juste inadmissible.
Oui. Oui, donc au fond, il y avait entre eux une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire, votre père avait certainement un terrain émotionnel susceptible et votre mère, elle, ne prenait aucun gant et lui donnait de bonnes raisons d'être contrariée, offensée, fâchée.
Voilà, c'est ça.
Oui. Ouais. Et vous, donc, et votre père, lui en retour, il la rejetait, votre mère, quand il était soumis à...
Oui. Il se disputait assez fortement, oui.
Ça a dû vous impressionner, ça ?
Oui, ça m'impressionnait, oui. Ça m'impressionnait, et puis moi, j'étais toujours... très tôt, j'essayais de comprendre ce qui se passait, pourquoi ils se vexaient comme ça et tout.
Donc vous étiez très tournée vers votre père, Pam ?
Ouais, je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai pas beaucoup de... Enfin, si, ouais, peut-être, ouais.
Est-ce que ça vous semble juste de dire que vous étiez une petite fille ou une jeune fille qui s'intéressait au masculin ? Parce que d'évidence, si vous vouliez prendre soin de ne pas contrarier votre père, d'avoir une bonne relation avec lui, si vous recherchiez sa présence quand il vous la donnait, vous étiez intéressée par le monde masculin. C'est ce qui fait les amoureuses en herbe, vous voyez ?
Ce qui fait les amoureux en herbe ?
Oui, ça fait les amoureuses en puissante. Une jeune fille qui se tourne vers son père, qui a envie d'entrer dans une bonne relation avec lui, d'entrer en relation avec le masculin, ça, c'est ce qui fait les futures amoureuses. Donc vous avez des dispositions pour la relation amoureuse, vous vous êtes intéressée au masculin, vous avez eu envie que votre père soit content de vous, qu'il soit bien avec
vous. Oui. Mais oui, très clairement. Oui. Ça c'est sûr. Ouais. Ouais.
Donc, il me semble déjà, Pam, qu'il y a quelque chose que vous pouvez apercevoir pour vous donner des appuis, c'est de faire de votre enfance une force, au sens où très tôt vous vous êtes intéressé au masculin. Donc ça, c'est un élan en vous. C'est ce qui fait certainement une part de votre féminité.
D'accord.
Et vous avez appris un art très utile qui est de ménager la susceptibilité masculine. Donc ça, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de raison qu'une relation de couple ce soit comme ce que vos parents vous ont mis sous les yeux. Ça, c'est quand même souvent au détriment du climat amoureux. Mais vous, peut-être, vous êtes allé dans un excès, au sens où vous êtes prisonnière de la croyance qu'un homme est forcément aussi susceptible que votre père, voire, si on condense les deux, voire aussi rejetant que votre frère. Or, il y a des hommes qui n'ont pas ce terrain émotionnel-là.
Oui, bien sûr, ouais. Non, c'est vrai, c'est une super analyse, parce qu'en fait, finalement, je m'étais pas rendu compte du poids, peut-être, de mon père dans ma manière de fonctionner. Quoi. Ouais.
Vous voyez, je suis pas sûre que le poids le plus fort, ce soit votre frère, parce que avec votre frère, vous avez fait l'expérience du rejet. Bon, c'est désagréable, on n'a pas envie de s'y frotter, mais ça n'a rien d'insidieux, c'est clair. Voilà, il y a des hommes qui sont rugueux, c'est tout. Et lui, peut-être qu'il n'aurait jamais fait ce que faisaient vos amoureux au début d'une relation, c'est-à-dire des déclarations très amoureuses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus complexe du côté de votre père, parce que lui, il n'était pas... identifié dans votre esprit comme rejetant, il était même identifié comme plutôt désirable, vous aviez envie d'avoir une belle relation avec lui, mais à l'intérieur de ce lien, il y a des choses qui vous ont inhibé, qui vous ont obligé à vous mettre en veilleuse pour ne pas l'indisposer. Quand vous dites, vous infériorisez, c'est mettre en veilleuse pour que pas risquer de l'indisposer, et vous en avez retiré une certaine croyance sur les hommes que le masculin est un champ de mine potentiel et qu'on marche sur des œufs pour s'y avancer.
Oui, d'accord.
Donc peut-être prendre conscience que cette croyance est erronée, de regarder le monde des hommes autour de vous, que vous puissiez réviser cette croyance et de vous rendre compte qu'il existe des hommes susceptibles, mais pas tous, et qu'il existe des hommes, et manifestement, ceux avec qui vous avez commencé des relations, ils aimaient votre naturel.
Mais oui, oui, oui. Mais oui, en fait, c'est vrai que c'est dès que je commence à être un peu trop... finalement, dès que je deviens plus naturelle, en fait.
Oui.
Ouais.
Mais oui.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Exactement.
C'est vrai que du coup, ouais, moi, je vais un petit peu ménager et je vais me dire, ah non, je vais pas dire ça parce que ça va être un petit peu trop ceci, cela. Enfin, vous voyez, je suis tout le temps, du coup.
Alors, il faut dire à la petite fille qui est en vous que c'est plus votre père que vous avez face à vous.
Ouais.
C'est un homme différent qui conçoit la relation comme égale, a priori, de façon dès lors qu'il est amoureux, ça veut dire qu'il tient autant à vous que vous tenez à lui.
Et vous, d'accord.
Et vous apercevoir que vous avez affaire à un autre phénomène que le phénomène paternel.
Oui, d'accord.
En vous donnant peut-être le plaisir d'explorer, d'observer, de découvrir.
D'explorer d'autres hommes.
Oui, d'autres caractères que ceux de votre père, d'autres figures.
Ouais.
Le monde du masculin est rempli de figures d'hommes très diverses. Ça peut être amusant d'explorer.
Bah oui, oui, oui. Mais du coup, parce que, bon, c'est vrai que parce que moi, j'extrapole parfois, je me dis, bah voilà, les hommes, c'est vrai que peut-être que je leur plais physiquement, mais que finalement, je me dis, en fait, finalement, je leur plais physiquement, mais vous voyez, j'extrapole et je me dis, mais pas pour s'engager, quoi, pas pour...
Je crois pas ça, Pam, je pense pas que ce soit que physiquement. D'abord, parce que quand c'est que physique, ça conduit pas forcément à des déclarations tendres comme celles que vous avez. Et je pense que pour un homme, une femme, c'est un ensemble, c'est le physique, mais c'est aussi l'atmosphère qui se dégage d'elle. Et ce qui se dégage d'elle, ce sont déjà des traits de personnalité. J'entends par exemple que vous êtes une femme douce et vivante. On sent que le rire est pas loin chez vous. On sent que vous êtes prête à rire, qu'il y a une forme de douceur, donc de féminité. Tout ça, c'est des traits de personnalité, c'est pas que du physique. Je crois que ce serait dommage de dire que c'est que le physique et qu'après, quand la personnalité apparaît, ça vous dessert. Je crois que c'est pas ça l'histoire.
D'accord.
Il y a Jacques qui nous écrit souvent de très beaux messages, qui dit « Restez naturel, ne cherchez pas à travailler votre attitude comme dans un rôle, analysez plutôt les racines de vos peurs. Belle suite. » Ça donne aussi l'idée d'un conseil. Pam, je pense que ça vaut la peine que vous essayiez de vous libérer de cette croyance, comme on l'a dit, liée à votre père. Mais si vous sentez qu'il y a des choses tellement ancrées en vous, que ce sont des nœuds, que c'est pas si simple. Je pense que là, ça peut valoir la peine de faire un passage en thérapie. Parce que la thérapie, pour moi, je suis psychanalyste, donc je sais que la psychanalyse fonctionne très bien pour mettre à jour des croyances erronées et les réexaminer, les reconfigurer. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a trop de... Si vous arrivez à les surmonter dans la vie, par l'expérience, c'est très bien. Mais si vous sentez que ça persiste, je pense que ce serait dommage que ça vous inhibe durablement et que ça vous... que ça altère votre vie de femme, ça vous enlève de la joie.
D'accord. Oui, oui, moi j'avais déjà fait une analyse et j'aime bien... Oui, j'avais fait une analyse par rapport à certaines angoisses que j'avais eues, ça avait bien fonctionné. Mais c'était il y a un petit moment. Et en fait, c'est vrai que là, après, j'avais consulté une psychologue, mais je trouve que c'est moins efficace. En fait.
Bah,
enfin,
en
disons
cas,
que Oui, moi, je fonctionne mieux sur le mode analytique.
Oui. Ben, dans ce cas, donc, n'hésitez pas à retourner vers l'analyse. C'est assez fréquent qu'on ait fait une première séquence et on en fait une deuxième quand quelque chose de nouveau apparaît, parce que c'est en vivant qu'on s'aperçoit de quelles sont nos peurs et on peut résoudre un premier niveau et que la vie fasse apparaître un second niveau. Donc ça, peut-être, enfin, vous le sentirez, ça pourrait être intéressant pour vous.
D'accord. Mmh.
Voilà, Pam. D'accord.
Ok, merci. Oh là là. J'ai l'impression de découvrir. Non, mais c'est vrai que vous m'ouvrez un petit peu les yeux sur une explication que j'avais pas du tout envisagée.
Oui, en fait. Ben oui, vous aviez pensé à une explication qui n'était pas fausse, mais il y avait probablement pas que ça.
Ouais.
Eh bien, Pam, je vous souhaite une très belle continuation. Ouais.
Merci beaucoup.
Et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles si vous le souhaitez. 09 69 D'accord. 39 10 11.
Merci.
Bonsoir, Pam.
Bonsoir, Sabine.
Minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, votre espace pour parler de vous, chercher à mieux vous comprendre vous-même, à trouver des solutions ou à aider d'autres personnes par l'expérience que vous avez vécue. Pour n'importe quelle question, quel que soit votre sujet, vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11. Et si vous souhaitez réagir, c'est par SMS 64 900 code RTL et toujours sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Jocelyne.
Bonsoir Sabine.
Eh bien, je suis ravie de vous accueillir, Jocelyne.
Moi aussi, merci de m'avoir retenu comme appel.
Oui.
Ma vie a été très compliquée, que je ne sais pas bien par où commencer.
Alors ne vous inquiétez pas, on va ranger ensemble. Donc dites comme ça vous vient.
Voilà. Donc, j'ai connu un jeune homme, j'avais 18 ans.
Oui.
Donc c'était un jeune qui était fêtard, tout ça, mais moi je pensais que c'était la jeunesse et puis qu'après ça s'arrangerait.
Oui.
Après on a continué à se fréquenter.
Oui.
Il y a eu des hauts, des bas, il avait été reparti avec une ancienne, après il est revenu. Après, je suis tombée enceinte. J'ai une petite fille.
Oui.
Et puis, on s'est mariés. Et puis, mon père ne voulait pas que je me marie avec lui parce qu'il trouvait que ce n'était pas un garçon pour moi. C'était pas un homme sérieux.
Ah, oui. Voilà. Parce qu'il qu'il sortait beaucoup et qu'il avait déjà rompu avec vous.
Voilà, exactement. Et comme mon père avait connu une situation délicate, très difficile avec son père qui vivait, il avait peur que je me retrouve dans la même situation.
Donc c'est votre grand-père paternel qui était dans l'alcool.
Voilà, c'est exactement.
Ça. C'est ça.
Et puis je me suis mariée. Comme il n'était pas tellement pour fonder un foyer, donc je suis restée chez mes parents. Et puis,
même avec votre petite fille?
Oui,
ah oui.
Nous sommes restés. Et puis après, comme je voyais...
Alors que je vous comprenne bien, Jocelyne, quand vous dites « nous sommes restés », c'est-à-dire que vous avez vécu avec lui chez vos parents ou vous étiez chez vos parents et lui, il vivait sa propre vie?
Et si vous voulez, lui, on vivait chez mes parents.
Oui.
Mais lui, dès le vendredi jusqu'au lundi soir, il vivait sa propre vie.
D'accord, les week-ends.
Voilà, exactement.
Oui.
Après, j'avais voulu divorcer.
Oui.
Mais j'avais peur de pas avoir la garde tout à fait de ma fille. J'avais peur en la justice.
Quand vous avez voulu divorcer, Jocelyne, elle avait quel âge, votre fille, à peu près?
Ma fille, elle avait 2 ans.
Elle avait 2 ans.
Elle avait 2 ans.
Et pourquoi vous aviez peur de ne pas avoir la garde?
Parce que j'avais peur en la justice que ce soit... soit pas reconnu qu'il ait droit à la garde de notre fille et que la justice ne reconnaisse pas, si vous voulez, tout le dépôt. Donc, je n'avais pas confiance à la justice. Donc, on est restés ensemble.
Et lui, lui, il était menaçant par rapport à ça. Est-ce qu'il vous a dit, si jamais tu me quittes, tu perdras ta fille?
Ah non, il n'en a jamais parlé de ça.
D'accord.
Si vous voulez, vis-à-vis des enfants, il était absent.
Oui.
Il ne s'est jamais occupé. Après, quand ma fille elle a eu 3 ans,
oui.
Je suis retombée enceinte.
Oui.
Donc, j'ai eu une deuxième fille. Donc je suis toujours restée à vivre chez mes parents.
Oui.
Et puis après, quand mon aînée, elle avait 7 ans et ma deuxième, elle avait 3 ans,
oui.
J'ai décidé de prendre une maison. J'ai décidé de prendre ma foyer.
Oui, oui.
Voilà.
En ayant discuté avec lui, avec son accord?
Oui, en ayant discuté avec lui, avec son accord, et qui me disait qu'il changerait, tout ça, et puis finalement, ça n'a pas changé. Donc, il était toujours un peu à vivre un peu sa vie de son côté, et moi, les week-ends, j'allais chez mes parents, et puis soit qu'ils venaient nous rechercher, ou c'est mes parents qui me reconduisaient à notre foyer.
Et à ce moment-là, Jocelyne, vous étiez heureuse avec lui sur le plan amoureux, sur le plan du couple?
Non, je n'étais pas comblée. Je restais avec lui parce que j'avais peur. Parce qu'un jour, je lui avais dit j'en ai marre de cette vie, je vais te quitter. Il m'avait dit si tu me quittes, je te tuerai. Donc, il était menaçant et violent.
Donc, aussi violent dans ses paroles ou il était violent avec vous?
Il était violent dans ses paroles et en plus, il était violent avec moi quand il était alcoolisé.
Oui.
Hors de son alcoolisme, il n'avait aucune... pas plus gentil, pas plus sérieux, père, tout ce que... pas plus. Mais alors, c'était par période. Il avait bien 6 mois sans rien faire, 3 mois instables, comme ça. Et en plus, il était peintre et il faisait des déplacements. Alors, dans la semaine, j'étais tranquille, mais il était très jaloux. J'avais le droit de parler à personne. Si je souriais à un homme, c'est que j'allais coucher avec lui. C'était toujours des reproches, tout ça. Et puis,
jalousie, c'était une constante, qu'il soit dans une période d'alcool ou pas, il y avait cette jalousie.
Ah oui. Cette jalousie constante. Et puis, après, j'ai continué à vivre comme ça. Et puis, mes enfants, forcément, ils en ont souffert. Mais on croit toujours que ça va s'arranger, on croit toujours que ça va aller mieux. Quand il est pendant 6 mois, qu'il était bien, je disais, ça va s'arranger, ça va aller mieux. Puis ça
dans ces moments-là, Jocelyne, à part la jalousie, vous étiez heureuse avec lui dans les moments où il était sobre?
Ah oui. Dans ces moments-là, oui.
Dans ce cas-là, c'était un compagnon agréable, affectueux.
Voilà, exactement.
Et un bon père aussi?
En question de père, toujours absent.
D'accord.
Il ne s'occupait pas de ses enfants. Même vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de tout. Même avoir des conversations avec ses enfants, il ne les avait pas.
Donc quand ça se passait bien, ce qu'il y avait de ce à quoi vous teniez, c'est que vous aviez une vie de couple, vous aviez une vie d'amoureux.
C'était pas
un père, mais vous aviez une vie d'amoureux.
Voilà, exactement. Exactement, mais c'était pas... Mais comme mes filles, pendant les vacances, pendant les week-ends, tout ça, ils étaient chez leurs grands-parents. Parce que mon aîné n'a jamais aimé son père. Elle ne l'a jamais aimé.
Qui, lui, n'a rien fait pour changer ça.
Il n'a rien fait. Non, absolument pas. Oui. Absolument pas. Il n'a rien fait. Et puis, d'abord, chez lui... ses parents, tout ça, il n'y avait pas d'affection pour les enfants. Il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas un enfant. Et dès qu'il avait 14 ans, qu'il avait fini de son école, c'était bon, mais maintenant tu vas à l'école, tu t'en vas, tu sors de la maison. Il n'y avait aucune affection pas, des parents.
Pour autant, lui, il avait consenti à vos deux grossesses, c'est-à-dire c'était une surprise à chaque fois ou c'était un projet ensemble et il consentait
sur
le principe.
Non, c'était lui qui voulait les enfants parce que moi je n'en voulais pas.
Ah.
Parce que bon, la première c'était différent, mais quand j'ai vu comment il se comportait, après je n'en voulais pas.
Et lui voulait une deuxième.
Mais c'est lui qui voulait absolument avoir un deuxième enfant.
D'accord. Et finalement, alors, vous êtes rangé à son avis.
Voilà, exactement.
D'accord. Donc, en fait, lui, il voulait, dans l'idée, être père, mais dans la vie quotidienne, il n'était pas porté à exercer une présence paternelle.
Absolument pas.
Mais il aimait l'idée d'être père. Ça vous paraît juste?
Voilà, c'est ça que je ne comprenais pas. Il n'a jamais été méchant avec eux.
Oui.
Il les a jamais frappés, il les a jamais disputés, tout ça. D'abord, il aurait voulu les disputer ou n'importe, je n'aurais pas accepté.
Oui.
Parce que j'aurais dit plus le comportement que tu as avec eux. Si c'est pour leur faire des reproches et non leur présenter tes sentiments, c'est pas la peine.
Oui.
Je ne l'aurais jamais accepté.
Oui.
Et donc, après, mon papa est décédé, ma maman est venue vivre près de chez nous, donc je m'occupais beaucoup de ma maman, parce que mon papa, quand il est parti, il était presque... Il m'a dit sur la civière, « Tu sais, Jocelyne, tu t'occuperas bien de ta mère si je ne reviens pas. » Je lui ai promis.
Oui.
Donc, je me suis toujours, si vous voulez, sacrifiée quand même un peu trop pour ma mère et en délaissant un petit peu mon couple.
Ça, voilà. Vos filles avaient vers quel âge à peu près quand votre père...
Ma fille aînée, quand elle avait 12 ans,
d'accord,
quand mon père est décédé,
oui,
et ma deuxième, elle avait 4 ans de moins.
D'accord. Donc,
mais ma fille aînée a toujours dit « Mon père, c'est mon grand-père ». Et d'abord, un jour que son père était alcoolisé, elle lui a dit « De toute façon, tu n'es pas mon père ». Alors lui, il l'a compris dans le sens
que vous l'aviez
n'était pas que je l'avais eu avec quelqu'un d'autre.
Ben oui, lui, il l'a interprété selon la pente de sa jalousie.
Voilà, exactement.
Et il ne s'est pas dit que c'était une phrase d'enfant qui lui disait ça parce qu'il n'incarnait pas la figure de père qu'elle désirait. Ça, il n'y a même pas pensé.
Non, il n'y a même pas pensé.
Oui.
Il a tout de suite, comme il était en plus alcoolisé, il a tout de suite pensé, ma fille me dit la vérité.
Elle connaît un secret.
Un secret que j'ignore. Et elle me le dit.
Oui.
Et pour me dire qu'il n'est pas mon père, elle lui a dit de toute façon qu'il n'est pas mon père. Alors, après, elle lui a dit non, mon père, pour moi, c'était mon grand-père. Et à la mort de son... Elle a complètement changé à la mort de son grand-père. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle est complètement... Pour elle, ça a été une déchirure.
C'est ça. La figure paternelle, la protection paternelle, c'était lui. C'était son grand-père.
C'était son grand-père.
C'est ça qu'elle dit à son père.
Voilà. Et une fois qu'elle ne l'a plus mis, pour elle, elle n'avait plus de papa.
C'est ça.
Voilà. Et donc, après, je suis restée avec lui et elle m'en a toujours voulu. Et même aujourd'hui, malgré que... Elle m'en veut encore aujourd'hui. D'abord, on ne se voit pratiquement pas. On se voit deux fois par an environ. Parce qu'elle a une fille de 17 ans.
Oui.
elle ne souhaite pas la fête des mères. La fête des mères, elle ne souhaite pas mon anniversaire, elle ne souhaite pas Noël, elle ne souhaite rien. Pour moi, je suis une mère absente. Parce qu'elle m'a dit que je n'avais pas joué mon rôle de mère, d'avoir quitté son père pour eux. Alors que moi, d'un côté, j'ai eu tort, mais je l'ai fait un peu pour les protéger, parce que je savais qu'il était violent. Que moi, de toute façon, je leur ai dit à cette époque-là, je suis sûre, violent comme il m'aurait tué. Il aurait fait
Est-ce que ça vous semble juste, Jocelyne, de dire que la situation était complexe, parce que dans vos motifs pour ne pas le quitter, il y avait le fait qu'il vous faisait peur?
Bon, oui.
Vous le dites, le fait qu'il avait vos deux filles, mais aussi oui. Le fait que vous teniez à cette vie amoureuse, cette vie de couple que vous aviez dans les moments où il était bien.
Voilà,
c'est peut-être ça aussi que votre fille a capté. Je ne dis pas qu'elle a raison, hein, j'essaye de comprendre sa position. Qu'elle a capté que vous restiez avec cet homme pour des raisons qui ne tenaient pas au fait qu'il était un bon père, mais parce que vous aimiez votre vie amoureuse avec lui. Ça, elle a dû le capter. C'est peut-être ça aussi qu'elle vous reproche. Et encore une fois, je ne dis pas qu'elle a raison. Hein. Chacun a sa position.
Oui, c'est exactement ça.
Oui, oui.
Parce que quand on a eu une discussion assez vive, il y a environ 2 ans, c'est ce qu'elle m'a reproché.
Ben oui. Au fond, elle vous a reproché, si on le dit de façon un peu plus brutale, elle vous a reproché de privilégier votre choix de femme. Sur le choix de la mère qui donne à ses enfants un père aimant, présent, etc.
Voilà, exactement.
Oui.
Vous avez tout à fait trouvé. C'est tout à fait ça.
Oui.
Et en plus, donc, après, elle est partie travailler, ma deuxième aussi, et je suis restée avec lui. Et en 2010, il m'a frappée. Il m'a frappée vraiment violemment.
Oui.
Je me suis réfugiée chez une voisine. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je suis partie. J'ai pris un logement. J'ai été 2 mois sans le voir. Et après, je pouvais plus rester sans le voir. Il fallait que j'entende sa voix. Je l'ai trop aimé et je n'arrive pas même aujourd'hui.
Oui.
Vous voyez, aujourd'hui, là, depuis 10 ans que je suis partie.
Alors, Jocelyne, là, on va s'engager sur la question de fond pour laquelle vous appelez.
Oui.
On va marquer une courte pause, le temps des informations. Surtout, vous restez en ligne et nous reprenons notre échange dans un instant.
D'accord, entendu.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL, il est 23h. Un point sur l'info avec Alexandre de Saint-Aignan.
Face à la 4e vague de l'épidémie dans les Antilles, notamment, le service de santé des armées va désormais faire fonctionner 20 lits de réanimation au lieu de 10 à l'hôpital de Fort-de-France en Martinique d'ici une dizaine de jours. Ce sera la première fois que les armées déploieront autant de capacités de réanimation en Outre-mer, selon la ministre Florence Parly. En plus de la Martinique et de la Réunion, la Guadeloupe sera reconfinée à partir de demain et pour 3 semaines. Les hôpitaux sous tension au niveau national. Le nombre de malades continue de grimper, y compris dans les services de soins intensifs, alors que des syndicats de personnel soignant appellent à la grève. Le ministère de la Santé active à nouveau des récompenses. Retour des heures supplémentaires majorées de 50%. Compensation exceptionnelle des congés payés non pris. Face à la flambée de l'épidémie en Corse, le plan blanc a été activé. Il permet de mobiliser l'ensemble du personnel. Malgré tout, une éclaircie dans les statistiques. Les chiffres des nouvelles contaminations sont en baisse dans un département sur 3. C'est jeudi prochain que le Conseil constitutionnel doit statuer sur le pass sanitaire en France. En attendant, aux États-Unis, la ville de New York a franchi le pas, que ce soit pour les restaurants, les salles de sport ou les salles de spectacle. Il faudra désormais une preuve de vaccination pour y accéder. Même chose pour les salariés de ces établissements. Les Jeux Olympiques avec 24 médailles désormais au compteur de l'équipe de France. La dernière aujourd'hui, du bronze en cyclisme dans l'épreuve par équipe de vitesse. Autre succès du jour, la qualification des volleyeurs français en demi-finale. C'est historique, surtout après avoir battu la Pologne, double champion en titre. Ça passe aussi pour les basketteurs et les handballeurs. Et puis l'image du jour, évidemment, c'est la blessure de Renaud Lavillény qui a empêché le perchiste français de décrocher une médaille. Il n'a pas pu dépasser les 5,70 m. Lui qui avait remporté une médaille d'or en 2012 et une médaille d'argent, c'était en 2016. Demain à Tokyo, on suivra notamment la performance de Kevin Mayer qui tentera de devenir champion olympique de décathlon pour la première fois de sa carrière. On suivra aussi les Françaises en basket et en handball qui tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Et puis en football, ça passe pour Monaco, vainqueur 2-0 sur la pelouse du Sparta Prague. Les Monégasques qui remportent le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils recevront les Tchèques dans une semaine pour le match retour. Monaco prend en tout cas une belle option pour les barrages d'accession à la C1. La météo pour demain, retour de la pluie notamment sur le sud de la France avec parfois quelques épisodes orageux, un ciel gris qui pourrait quand même laisser place à quelques éclaircies dans le sud-ouest notamment. Et puis dans le golfe du Lion aussi, dans la soirée, le temps sera plus calme sur le tiers nord du pays malgré un ciel souvent très nuageux avec quelques risques d'ondées. Vos températures pour demain, 20 degrés à Brest et à Lyon, 21 à Montpellier et à Paris, 23 à Perpignan, 24 à Marseille et 29 degrés à Bastia. 23h03 sur RTL. Je vous laisse avec Sabine Calégari pour la suite de Parlons-nous.
Merci Alexandre et on vous retrouve de notre côté à minuit pour de nouvelles informations. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
22h minuit, Parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant. Parlons-nous continue sur RTL. Si vous avez pour votre vie une question qui vous tient à cœur ou vous tourmente, n'hésitez pas. Il y a toujours des solutions pour aller mieux ou des pistes pour agir et on en discute ensemble. Le numéro, vous le connaissez, 09 69 39 10 11. Et nous retrouvons Jocelyne. Vous êtes toujours avec nous, Jocelyne ?
Oui, je suis toujours ici. Bon.
Alors peut-être voilà. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vais faire un rapide résumé de ce que vous avez dit et que nous puissions reprendre sur ce que vous ameniez à l'instant. Donc Jocelyne, vous avez rencontré à 18 ans un homme qui dès le début s'est révélé avoir une tendance à l'alcool, à la fête. Vous avez eu une première fille avec lui, puis une deuxième. Vous avez choisi un mode de vie où vous étiez, où le couple que vous formiez avec lui était aussi chez vos parents. Lui continuait sa vie le week-end. À un moment donné, vous avez choisi de prendre une maison, de vous installer ensemble. Et là, il y avait avec votre mari, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Avec votre mari. Il y avait des périodes très difficiles qui correspondaient au moment où l'alcool était plus présent. Des périodes où vous disiez qu'il pouvait être un compagnon charmant pour vous, en tout cas en tant que couple. Mais de manière générale, ça n'a jamais été un père impliqué auprès de ses filles.
Non, absolument pas.
Voilà. Et voilà. Donc, votre fille aînée, maintenant, a fait sa vie. La relation que vous avez avec elle est distante parce qu'elle vous reproche, pour faire simple, d'avoir privilégié votre vie de femme en restant avec son père, même si vous aviez aussi d'autres raisons.
Oui.
Vous aviez peur de lui, notamment. Et là, vous étiez en train de nous parler d'un moment où la violence est montée.
Oui, voilà. Et alors, donc, je suis partie. Et puis, j'aurais bien aimé refaire ma vie.
Je interromps, vous avez dit 2010, c'est ça, le moment où
oui,
vous
2010,
avez
voilà.
D'accord,
voilà.
Donc ça fait 11 ans.
Donc, oui, voilà. Donc, j'avais 55 ans. Et puis, j'aurais bien voulu refaire ma vie. Et je n'arrivais pas à l'oublier. Je n'arrivais pas à pouvoir, il fallait toujours que je vienne le revoir. Mais lui, par contre, n'est jamais venu à mon appartement. Pour lui, je sais qu'il ne m'aime plus.
Oui.
Je sais parce qu'on a chacun notre chambre. on n'a aucune relation. Simplement, on mange ensemble. On vit en ami.
Et lui, ça, il y consent.
Oui, il y consent à ça.
Oui.
Il y consent parce que, si vous voulez, pour moi, je viens parce que j'ai encore des sentiments pour lui, malgré ce qui s'est passé, ce qui est pas tellement appréciable de m'avoir fait souffrir comme ça et d'avoir encore des sentiments comme ça. Ça, j'ai été par plusieurs psychologues, il y en a même certains qui m'ont fermé leur porte parce qu'ils m'ont dit, mais madame, vous êtes un peu folle parce que il vous fait souffrir. Oui, il y en a une qui m'a dit, mais vous êtes folle, il vous a fait souffrir, il vous a frappé, vous êtes retrouvée à l'hôpital et vous continuez à avoir des sentiments pour un homme comme ça. Alors moi, je viens parce que, mais lui, si vous voulez, quand il m'accepte, je sais que c'est plutôt pour l'intérêt de faire son ménage, d'entretenir sa maison, de, s'il manque un peu d'argent, de lui en prêter, de lui en donner, parce que je le revois pas.
Oui.
C'est plutôt un besoin.
Vous pensez que lui, même s'il n'est plus amoureux, comme vous dites, il ne peut pas avoir envers vous un sentiment d'attachement ou d'affection profonde? C'est pas ce que vous sentez? Vous ne sentez pas qu'il est dans les sentiments, lui?
Non. Je ne sens aucun attachement, je ne sens rien. Et moi, c'est pour ça que je ne comprends pas comment je n'arrive pas à faire la coupure que ma deuxième fille me dit, mais maman, mais comment tu y vas? Tu sais bien que c'est pour servir, c'est pas pour... non parce que je sais bien, parce que même les reproches, il sait bien me les dire, hein. Et j'ai qu'à faire quelque chose, il est même méchant pour me le dire, il n'a pas de compassion, il n'a rien. Moi, j'essaie d'être calme, tout ça, parce que je veux toujours venir, mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, comment je n'arrive pas à faire cette coupure.
Alors Justine, à quoi vous tenez dans ce lien? À quoi vous tenez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce lien?
Ce lien m'apporte de le voir,
oui,
et de me faire repasser au temps où je l'ai connu. Voilà, parce que je ne peux plus entendre les chansons que on écoutait ensemble. On est allé très souvent pendant 15 ans. On allait tous les ans en vacances en Haute-Savoie. Je voulais m'y installer et puis vu ma maman, on n'a pas pu. Parce que je dis peut-être en partant de la région, ça changerait. Et puis, mais je n'arrive pas à comprendre. Je suis chez moi. Bon, évidemment, je suis seule. Parce que ma deuxième fille, si vous voulez, c'est par l'intérêt que je m'occupe de ses enfants. Sinon, c'est pareil, c'est l'intérêt. Sinon, je ne sens pas d'attirance. C'est l'intérêt de dire, tu me gardes mes enfants, je paye pas de garde, voilà ce qu'elle me dit. Et puis, j'ai l'impression de servir un peu à tout le monde et moi de ne pas avoir un rendu. Alors, je me demande pourquoi je continue à avoir cet attachement.
Je comprends votre question, effectivement.
Quand je repense à ce que j'ai vécu, à ce qu'il m'a fait vivre, à comment il m'a insulté, comment il m'a dédaigné, même en des moments quand je revenais, là, pendant les 10 ans là, que je revenais, il y avait des jours qu'il ne m'ouvrait pas la porte. Donc, je partais dormir chez une amie, mais j'insiste toujours à revenir et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça, de ça que je voudrais me libérer.
Je comprends.
Parce que je trouve que je trouverais plus une libération dans ma vie.
Alors, si vous... Oui, allez-y.
Oui, parce que si je en des moments je dis je n'irai bien pas, et puis après bon ben je dis je m'ennuie, je suis toute seule chez moi, toute seule devant une assiette, toute seule devant la télé, c'est très pesant. La solitude me pèse parce qu'on a toujours été habitués à être nombreux chez moi, dans ma famille. Maman a eu des enfants en garde, tout ça. Donc, on a toujours été nombreux, très nombreux. Et même ma famille m'a laissé de côté pour lui parce que quand on nous invitait, bon, ben, moi, je venais toute seule parce que lui, ça ne l'intéressait pas. C'était ce week-end. Et je n'arrive pas à comprendre comment je n'arrive pas à faire cette coupure. Et cette coupure, oui. Je voudrais y arriver.
Je comprends. Oui, oui, vous avez envie de vous libérer de quelque chose que vous savez voilà. Aujourd'hui être maltraitant.
Ben, voilà.
On va essayer de faire des hypothèses sur ce pourquoi vous êtes accroché en fait à cette relation. La première hypothèse, c'est est-ce que vous pensez que secrètement, vous avez l'espoir de voir revenir le visage que vous aimez ? Puisqu'au fond, votre ex-mari, il a deux visages. Et c'est pour ça que c'est si difficile de se séparer de ces relations-là. Quand quelqu'un est intégralement insupportable, c'est beaucoup plus facile que quand il a deux facettes très contrastées. Donc il avait un visage affreusement maltraitant, il vous a fait vivre l'enfer avec des choses qui sont hors la loi. Mais de l'autre côté, vous semblez vous souvenir, avoir une nostalgie du visage du compagnon complice avec oui. Qui vous avez partagé des très bons moments. C'est pas la peine de le nier, c'est pas parce qu'il y en avait des mauvais qu'on doit nier les bons. Est-ce que vous pensez que vous êtes accroché à l'espoir que ce visage-là revienne ?
Ah non.
Non,
non, non, je sais que ce visage-là ne reviendra pas.
D'accord.
Et non, mais c'est moi qui ne peux pas me séparer de l'être. Parce que si vous voulez, le visage qu'il avait, maintenant avec son visage qu'il a, j'ai du mal de le revoir.
C'est ça. Donc vous n'êtes pas dans cet espoir. Vous pensez que c'est pas non plus la nostalgie de ce que vous avez vécu de bien avec lui. Vous pensez que c'est pas ça qui vous accroche.
Non.
Alors, il y a une troisième hypothèse. Est-ce que vous pensez que dans la mesure où vous avez perdu votre père, il est devenu une sorte de figure paternelle. Alors, on ne peut pas le comparer à votre père, puisque cet homme vous maltraite. Mais est-ce que vous pensez que c'est devenu comme une figure paternelle et un repère dans votre existence ?
Ah non, pas du tout.
D'accord. Donc, ce n'est pas ça non plus.
Parce que mon père, c'était le... Maman, elle a été heureuse. Nous avons été heureux. Il faisait tout pour nous faire plaisir. C'était un père que, vous savez, j'y pense souvent et je regrette de ne pas l'avoir écouté.
Oui.
Je regrette de ne pas l'avoir écouté. Et j'ai du mal d'aller sur sa tombe parce que je repense à ce qu'il me disait et j'ai du mal de... Parce que pour moi, je l'ai trahi. J'aurais dû écouter ce qu'il m'a dit.
Oui.
Pour moi, je l'ai trahi. Si vous voulez, en allant sur sa tombe, j'ai du mal de confronter, si vous voulez, c'est une image que je me fais, de confronter son regard qui me disait, Jocelyne, ne fais pas ça, tu ne seras pas heureuse.
Mais en fait, si votre père vous disait ça, c'était pour vous protéger, pas pour créer un devoir envers lui.
Non, non, c'était pour me protéger.
Oui,
c'était pour me protéger.
Vous ne pensez pas que votre père ne voudrait pas que vous ressentiez une dette ou un devoir envers lui ? Lui, c'était simplement pour vous protéger, pas pour vous.
Oui, exactement.
Oui.
Exactement.
Et sans doute, s'il a été ce père aimant, il ne voudrait pas que vous vous sentiez en dette.
Ah mais non, non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Pas du tout.
Et aujourd'hui... Oui, allez-y.
Parce que mon papa, il était boulanger et avec son collègue de travail, il m'a dit plus d'une fois qu'il voyait mon père pleurer de savoir que j'étais malheureuse et que je ne l'avais pas écouté.
Enfin, il était, oui, au sens, il était malheureux pour vous.
Il était malheureux
pas
pour moi.
Pas parce qu'il pensait que vous l'aviez trahi.
Non. Il était malheureux.
Alors, Jocelyne, puisque vous n'êtes pas dans cet espoir, c'est pas une figure paternelle, c'est pas du côté de l'amour et de l'affection que ça se joue, est-ce que vous pensez que la seule peur de la solitude, dans la mesure où vous avez toujours été en famille, depuis vous l'avez rencontré à 18 ans, vous n'avez jamais quitté un mode de vie familial, est-ce que vous pensez que la peur de la solitude, ça suffit à expliquer que vous alliez par habitude le retrouver? Vous croyez que c'est ça?
Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est l'effet de pas me retrouver seule pendant le week-end.
Oui, mais au fond, entretenir les habitudes auprès de lui, c'est aussi une façon de rester dans ce lien et peut-être de ne pas vous rendre disponible pour ce que la vie peut vous apporter. Parce que vous êtes jeune encore, Jocelyne, donc
oui.
Vous avez tout à fait le temps de refaire votre vie. Je comprends la force d'attraction de l'habitude, surtout quand on n'a jamais connu une vie hors d'un foyer familial. Mais en revanche, vous savez, la façon dont nous sommes dans notre tête conditionne beaucoup les choses qui viennent à nous dans notre vie. Si vous vous sentez encore dans un lien avec lui, un lien régulier avec des habitudes de couple, peut-être n'y a-t-il pas dans votre esprit l'espace disponible qui permet attirer l'expérience, parce que l'état d'esprit dans lequel nous sommes a un effet sur notre monde. Nous émettons des quantités de signaux que les autres êtres humains captent, qui créent une forme de... Oui, qui créent notre champ de force, on va dire ça comme ça. Si vous êtes encore tellement dans ce lien, je crois que ça ne vous permet pas d'aller vers le monde avec la disponibilité et l'ensemble de signaux qui vous permettent de refaire votre vie.
Non, ça c'est sûr, parce que si je prends toujours l'habitude de venir le week-end, je prends pas le temps de consacrer du temps à autre chose, à d'autres activités, à d'autres rencontres que je pourrais faire. Mais si je viens, c'est pour m'éviter la solitude du week-end, du vendredi au lundi.
Vous savez, Jocelyne, je pense que ça vaut vraiment la peine que vous preniez votre courage à deux mains et que vous affrontiez votre peur de la solitude pour vous donner une chance de vivre autre chose. Parce que vous allez voir, dans un premier temps, je ne pense pas du tout comme ce qu'on vous a dit, que vous êtes folle ou quoi que ce soit, c'est humain, la peur de la solitude, et l'attraction des habitudes, c'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, ça s'inscrit dans nos circuits neuronaux. Nos neurones fonctionnent de telle sorte qu'elles s'agencent en fonction de nos habitudes, et nous avons tendance à réemprunter les circuits neuronaux dans notre tête qui sont déjà en place. Ça, c'est humain, c'est normal, c'est tout le monde. Mais vous allez vous apercevoir que si vous avez le courage, un premier week-end, de vous arracher à ces habitudes pour laisser place, ce sera l'inconnu la première fois, mais vous allez apprivoiser petit à petit, vous allez refaire votre vie, et vous verrez que très vite, dans votre cerveau, vont se créer des nouvelles connexions, et au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. Il faut avoir confiance dans le fait que vous allez refaire de nouvelles habitudes, et ce qui vous paraît redoutable au début, vous allez l'apprivoiser ensuite.
Oui.
Ça vaut la peine de faire cet effort, parce que sinon, vous tournez en rond dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et je crois que vous me l'avez dit, vous avez le désir de vous libérer. Et si vous restez trop longtemps, votre regard sur vous-même ne va pas être empreint de fierté. Vous allez finir par vous en vouloir à vous-même. Et c'est un mauvais cercle. C'est pas non plus la bonne disposition pour être ouvert ou surprise de la vie et du monde.
Oui, oui. Je m'en veux déjà d'avoir pendant 10 ans continué à vivre cette vie-là. Parce que je dis, j'ai perdu du temps.
Vous savez, il y a ce dicton populaire qu'on dit, il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé, voilà.
Oui.
Ne soyez pas... Vous savez, vous aviez vos raisons, on fait à un moment donné comme on peut avec notre niveau d'avancement dans la vie, notre expérience, notre évolution. Donc vous avez fait comme vous avez pu jusqu'à présent. Je pense que l'important maintenant, c'est le temps à venir. et que vous puissiez faire confiance en vous disant que si vous avez le courage de rompre ces habitudes, très vite, vous allez connaître d'autres expériences, d'autres rituels, d'autres choses vont prendre de la valeur dans votre vie. Mais il faut avoir le courage de casser cette attraction de l'habitude.
Voilà, c'est ça.
Donc, on peut. Là, il y a Jacques qui vous encourage aussi. Il dit : Jocelyne, vous avez vécu une jeunesse douloureuse. Donc, alcool, jalousie, votre altruisme et votre gentillesse ont été mis à rude épreuve. Malgré tous vos efforts et votre courage, la cellule familiale ne pouvait qu'être éprouvée. Donc, évidemment, là, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, à prendre votre courage à deux mains.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, Jacques, il a tout à fait raison.
Alors, Jocelyne, je vous envoie plein d'énergie.
D'accord.
Parce que c'est le premier pas qui coûte et après les autres s'enchaînent.
Oui, parce que je sais que je ne suis pas heureuse dans ma vie.
Ben oui.
Je ne suis pas heureuse.
Donc là,
je continue à être malheureuse malgré que j'ai pris la décision de partir. Mais je continue à être malheureuse.
Là, il faut vous lancer. Juste vous lancer.
Oui, d'accord. Ouais. Merci.
Je vous embrasse, Jocelyne.
Moi aussi, je vous embrasse. Et merci.
Avec plaisir. Au revoir.
Minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Nous sommes ensemble pour environ une demi-heure encore. Vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11. C'est Parlons-nous, l'émission qui traite votre question de vie ou votre sujet du moment en vous aidant à comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Bonsoir Sandrine.
Bonjour Sabine.
Eh bien, je suis ravie de vous accueillir.
Merci beaucoup.
De quoi souhaitez-vous nous parler, Sandrine ?
De ma relation avec mon fils, adolescent de 17 ans, même presque 18.
Oui.
Et c'est très très compliqué depuis quelques années et ça n'évolue pas dans le bon sens.
Ah, comment ça a commencé cette situation compliquée ?
En fait, j'ai 47 ans, j'ai trois enfants, donc de 24, 22 et 17 ans. Mon fils, donc le dernier, est en garde alternée. On est séparés avec le papa et divorcé depuis 12 ans, donc il avait 4 ans, c'était très très jeune. Et ça a été très compliqué, ça a été très conflictuel dès le départ.
Il y a eu tout de suite une garde alternée ?
Alors il y a eu garde alternée. Ensuite, à l'âge de 11 ans, il y a eu une garde exclusive pour le papa, parce que mes deux grands sont partis vivre avec le papa. Et puis, bien sûr, le dernier a suivi.
D'accord. Et ça s'est fait sans conflit ? Vous ne vous y êtes pas opposée ?
J'ai pas trop eu le choix, quoi, en fait.
Vous avez pas voulu séparer la fratrie, c'est ça ?
Exactement. Oui. Voilà. Je voulais privilégier la qualité à la quantité. Je me suis dit, tant pis, s'ils doivent revenir, l'un ou l'autre, ils reviendront. Ce qui s'est passé.
Oui.
Et suite à un conflit, il y a maintenant 4 ans avec mon fils. Avec son papa, j'ai récupéré mon fils en garde exclusive.
Oui, donc votre fils de 17 ans, c'est ça ?
De 17 ans, que j'ai pendant 6 mois gardé alors que son père ne voulait plus en entendre parler. De là, le JAF a été saisi pour recommencer nos gardes alternées.
À la demande de qui ?
À la demande du papa.
D'accord.
Je ne voulais plus en garde exclusive, mais en garde alternée.
D'accord.
J'ai donc accepté ça.
Oui.
Malgré que c'était compliqué, mais je me suis dit, il faut se réapprivoiser parce que mon fils était parti, c'était un jeune enfant, et j'ai retrouvé un adolescent avec abîmé parce que ça se passait très mal avec l'ex-compagne que mon ex-mari avait.
Et je vous interromps un instant, Sandrine. Pendant ces 13 ans, puisqu'il a eu il est allé chez son père assez jeune, on alternait d'abord en exclusive après. Vous, quand vous aviez quelles relations pendant cette longue période avec votre fils ? Comment ça se passait entre vous et lui ?
Ça se passait bien en fait. Ça se passait bien jusqu'à qu'ils partent en garde exclusive avec le père.
D'accord. D'accord.
Voilà.
Oui, donc et pendant une première partie de son enfance, la période garde alternée, ça se passait bien. Et à partir du moment où il est en garde exclusive, là, vous ne le voyez plus du tout ? Il ne voulait plus vous voir le week-end et les vacances ?
Si, alors justement, alors le souci, c'est que j'ai... Bon, mon fils est toujours en garde alternée. En période scolaire, il est en internat. Parce que je, comme il n'est pas très autonome, je voulais lui donner la possibilité d'évoluer, de vraiment s'investir dans son parcours professionnel, tout ça. Oui. Et le souci, là, c'est que son père ne le prend plus depuis 2 mois.
Oui.
Et je ne peux pas l'obliger à le prendre parce que c'est un droit... mais pas une obligation de droit de visite et d'hébergement.
Oui, oui.
Voilà. Donc, suite à cela, on a eu, on a été suivi par un éducateur en AEMO, c'est-à-dire une aide éducative en milieu ouvert.
Oui.
Bon, moi, j'ai toujours honoré les rendez-vous avec Oussa, mon fils, pour établir un dialogue, pour comprendre notre mode de fonctionnement. Ça s'est fait aussi chez le papa qui, lui, n'a pas honoré tous les rendez-vous. Donc, l'éducateur a fini par faire son rapport.
Oui.
Il a été envoyé à la juge. Il va avoir une audience. J'ai reçu justement aujourd'hui la convocation le 1er septembre de cette année. Et je pense que le papa ne voudra plus le reprendre. Et moi, le reprendre en garde exclusive à nouveau, ça va être très compliqué parce que ça se passe très mal. Comme j'ai dit à Sarah tout à l'heure, c'est de par son comportement, comment dire, un gros manque de respect. Il est méchant, ça peut aller jusqu'aux insultes.
Oui, avec vous ?
Et avec moi aussi.
Oui, oui.
Et une fois, il m'a fait très peur parce qu'il y a de ça 2 ans, bon, il faut savoir, parce qu'il est très grand, il fait plus de 1m86 pour plus de 100 kilos. En plus, il a des soucis de poids, donc voilà. Et un jour, je lui avais demandé le portable, normalement, il a refusé de me le donner. Je suis allée le chercher dans la chambre et là, il me barrait la route. Voilà, il ne voulait plus me laisser sortir de sa chambre.
Mmh.
Et là, j'ai eu, je vous avoue, très très peur. Voilà. Et je suis d'autant plus inquiète parce qu'il est vraiment à fond sur tout ce qui est support vidéo, c'est-à-dire principalement la console, les jeux vidéo, le téléphone. Il ne sort pas. Il a des amis virtuels.
Oui.
Et puis voilà. Ça tourne autour de ça.
Vous, cette situation-là, donc, vous l'avez vue venir ces dernières années ? Est-ce que c'est monté graduellement ? Comment ça en est arrivé là ?
Oui, c'est monté graduellement, effectivement, tout à fait.
Oui, donc quand il était chez son père, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Et vous étiez aperçu qu'il se renfermait, qu'il avait peu de liens sociaux, qu'il passait beaucoup de temps sur la console ? Vous aviez vu tout ça ?
Oui, oui, mais comme le dialogue avec le papa est aussi compliqué depuis le départ, depuis plus de 10 ans, si vous voulez, on a le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire d'éducation, mais on n'arrive pas à communiquer. Je pense qu'on a des rancœurs personnelles, ce qui nous empêche de communiquer et de... pour le bien de notre fils.
Je comprends. Est-ce que ça vous semble juste de dire que votre fils de 17 ans, quand il vivait chez son père, il n'était pas assez encadré ? Parce que est-ce qu'on l'a laissé livre à lui-même ? C'est ce qui arrive parfois quand il y a trop de consoles ou trop de jeux vidéo, de choses comme ça. C'est souvent symptomatique d'un jeune adolescent livré à lui-même, qu'on n'encadre pas, dont on ne s'occupe pas.
Voilà.
Oui.
Le père va qu'à ses occupations, X ou Y, et pour ne pas avoir la contrainte, la facilité, c'était de le laisser là-dedans. Et voilà.
Et les deux frères qui ont 22-24 ans, comment ils vont, de quoi est faite leur vie ?
Alors, mon fils aîné travaille à son appartement depuis plus de 3 ans déjà. Tout se passe bien.
D'accord.
Ma relation avec lui est parfaite. Et très, très bien. C'est normal, quoi.
Oui.
Et le second aussi, il est en colocation. Il a monté son auto-entreprise. Et j'ai de très bonnes relations avec lui également.
Alors, est-ce que vous savez pourquoi, puisqu'ils ont eu tous les trois le même père et les mêmes conditions de vie, mm-hmm. pourquoi ça a mal tourné chez votre dernier fils ?
Je pense qu'il y a ce problème de poids. Alors, il y a 3 ans, j'ai fait un bilan. Je suis restée 3 jours et 2 nuits avec lui au sein de... à l'hôpital à Pupin, puisque je suis de Toulouse,
oui.
pour effectuer des bilans, pour voir d'où venait son surpoids. C'était une alimentation qui n'était pas correcte.
Donc c'est un diabète métabolique, c'est ça ?
Un diabète, je ne sais pas, mais bon, il est statique, hein, il ne bouge pas assez, il ne veut pas faire de sport, il ne veut rien faire. Hein. Et puis voilà, et puis quand il s'ennuie, il mange. Donc, voilà, moi j'ai essayé de l'aider parce que moi, avant, j'étais aussi, j'avais des problèmes de poids, donc j'ai fait un bypass et bon, je sais de quoi je parle.
Oui.
Donc, je voulais lui faire savoir que, bon, mieux que personne, je pouvais le comprendre et l'aider, mais il refuse toute aide extérieure, notamment d'un psy éventuellement, il ne veut pas faire de sport. La filière dont il a choisi au niveau du lycée, ça ne lui plaît même plus alors qu'il doit passer le bac l'année prochaine.
Là, il est en essai général pour l'instant ?
Il est en lycée professionnel.
D'accord. Et quel métier ? Est-ce qu'il a déjà une filière bien identifiée ?
Oui, c'est pour la production de pièces mécaniques de précision.
D'accord. Et ça l'intéresse pas ?
Il avait choisi lui-même, hein ? Ah, pardon.
D'accord. Donc, le côté général des études ne l'intéresse pas, mais est-ce que ça l'intéresse, la production des pièces mécaniques ?
Ça l'intéressait, mais a priori, maintenant, ça ne l'intéresse plus. Voilà. Or, quand je lui demande quel domaine qui pourrait l'intéresser, il ne sait pas. Il n'a aucune ambition, il ne veut rien faire. Quand on lui propose des sorties, des activités, par exemple... à la maison pour les jeunes qui a des formes de petite commune, il ne veut rien faire.
Et à côté de ce symptôme de fermeture, peu de liens sociaux, beaucoup de consoles et un problème de nourriture, est-ce qu'il y a d'autres choses comme symptômes ? Est-ce qu'il a des crises d'angoisse, des crises tout court, des...
Le problème, c'est qu'il ne communique pas. Voilà, quand je lui dis si ça va, si ça va pas, laisse-moi tranquille, ça me saoule. Enfin, il ferme les portes, hein, il n'y a aucun dialogue avec lui. Il ne veut rien comprendre, il ne veut...
Voilà. Il a déjà eu une vie amoureuse ? Il a 17 ans, il
non,
a déjà
ça
eu...
ça ne l'intéresse pas du tout.
Ah, oui. Donc, pas du tout de rencontre de jeune fille dans sa vie, pas de compagnie féminine. Il dit que ça ne l'intéresse pas ?
Non, non, non.
Oui, donc ça signifie qu'il n'a pas de vie amoureuse, pas de vie sexuelle, toutes les pulsions passent dans la nourriture et dans les consoles.
Tout à fait, il est hermétique à tous les liens sociaux, quoi.
Et il n'est pas sportif non plus, même pas du sport
pas
en
du
solitaire.
Tout.
Il l'a jamais été ?
Il en a fait, alors il avait fait à un moment donné du tennis, donc du sport individuel, mais il a été vite écœuré parce que, bon, au début, ça se passait bien, et puis en dernier temps, il y avait moins d'enfants, et l'éducateur lui faisait taper une balle contre le mur. Donc il a subi ça comme un échec, je pense.
Et ça lui plaisait, le tennis ?
Oui, ça lui plaisait.
Jusqu'à récemment, alors ?
Oh, ça date de quand même il y a quelques années.
D'accord.
Il y a plus de 5-6 ans.
D'accord. Et là, donc, son devenir d'études, donc l'idée, c'est qu'il passe le bac. Là, il vient de terminer sa première, il va entrer en terminale, c'est ça ?
En terminale.
Et ça. Scolairement, il a la tête hors de l'eau ou ses résultats ont beaucoup chuté ?
Ah, c'est catastrophique. Il a même pas la moyenne et selon l'éducateur qui a contacté le CPE, moi je vois les résultats scolaires, c'est catastrophique, c'est toujours pareil, ne fournit aucun effort, il dort en cours, il est sur le téléphone et le CPE a dit que si jamais il continue comme ça, il n'aura pas le bac.
Là, Sandrine, je crois qu'il y a quand même une question sur son état psychique. Est-ce que, donc vous dites qu'il a été hospitalisé, qu'il y a eu des examens. Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur le plan psychique? Est-ce que dans le service, il a été reçu par un psychiatre ou un psychologue?
Oui, oui, oui. Alors, il jouait beaucoup moins à la console, donc il en était très conscient. Il a vite dit, oui, effectivement, je passe trop de temps. Je pensais qu'il voulait changer ses habitudes, parce que je l'avais envoyé déjà trois fois, je crois, dans des établissements en séjour pour les enfants ou ados en souci de poids. Pareil, il ne s'est pas investi dans les programmes.
Oui.
Voilà.
Et à part la console, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui accroche son attention dans la vie, qui accroche son désir? Est-ce qu'il a un goût pour quelque chose?
Le problème, c'est que rien ne l'intéresse.
Même pas des mangas, même pas des bandes dessinées, même pas des... Il a même pas des univers à lui?
Non, rien du tout. Même mon compagnon, parce que je suis avec quelqu'un depuis presque 4 ans, on ne vit pas encore ensemble, mais c'est un projet, puisque mon compagnon, depuis 4 ans, est en train de faire notre maison lui-même avec mon beau-père. Mon compagnon a 7 ans de moins que moi et n'a pas d'enfant. Oui. Aurait bien voulu s'investir avec mon fils, le prendre comme si c'était le sien, en fait.
Oui.
Lui avait proposé quelquefois de venir l'aider, enfin, pas qu'il avait vraiment besoin de lui, mais pour le faire participer à ce projet,
ben
pour le sortir de ses habitudes d'écran, lui avait dit bah, tiens, ça n'a jamais marché.
Et l'entente est bonne ou c'est comme s'il n'y avait pas de lien?
Alors, l'entente est bonne, mais seulement, moi j'ai été un peu élevée à l'ancienne, on va dire, et mon compagnon qui lui a fait du judo à très haut niveau, le judo c'est la discipline, et on est très à cheval sur le respect. Et mon compagnon, c'est vrai, je ne veux pas dire qu'il déteste mon fils, je ne veux pas dire qu'il aime mon fils, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le manque de respect qu'il a envers moi.
Ben oui, c'est qu'il trouve que la situation est impraticable.
Ah oui, c'est ingérable.
Mais là, Sandrine, il me semble que dans l'état où est votre fils, il y a quand même des signes cliniques, des symptômes hein, qui sont, à mon sens, de nature à éveiller l'attention. Vous voyez, c'est le fait qu'il n'ait pas de liens sociaux, ni avec des jeunes gens de son âge, qu'il n'ait aucune vie amoureuse, qui dise que ça ne l'intéresse pas, alors qu'à cet âge-là, les pulsions sont extrêmement vivaces et poussent vers une vie sexuelle. Enfin, la relation amoureuse est aussi mue par le besoin d'une vie sexuelle. Plus la place de la nourriture et des consoles qui sont deux addictions, je pense que là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide sur le plan psychique.
Oui, je le pense aussi, mais ce qui me révolte un petit peu, c'est que l'éducateur qui nous a suivis et tout ça, je l'ai alerté plusieurs fois, il n'a pas relevé pour lui, il n'est pas alerté. Oui, effectivement, il a un souci de poids, mais bon, ça, il trouve que bon, c'est pas...
Vous savez, Sandrine, on ne peut pas dissocier le souci de poids du tableau d'ensemble. C'est vrai que s'il n'y avait qu'un souci de poids, on pourrait se dire que c'est un symptôme. Mais là, il y a tout un tableau. Et en fait, le tableau qui se présente, c'est que votre fils, c'est comme si la flamme de son désir, vous savez, le désir en psychanalyse, enfin, chez l'être humain, c'est ce qui nous élance vers le monde. C'est la chose la plus naturelle du monde. Ce sont nos forces vitales. Le désir, c'est ce qui nous élance vers le monde, vers les choses qui ont du sens pour nous. C'est ce qui nous élance naturellement vers des liens, bon, plus ou moins réussis, mais on s'élance au moins, qui nous élance vers des centres d'intérêt. Et là, chez votre fils, tout le circuit du désir a l'air en état d'extinction. Et c'est un autre circuit qui est en action, qui est celui de la satisfaction immédiate à travers la nourriture et la console. Ça, c'est pas du désir, c'est pas la même chose, vous voyez. Donc là, il y a tout un tableau qui fait penser que votre fils a besoin d'aide et que ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Il n'y a rien qui n'ait aucune solution chez l'être humain, donc ne vous inquiétez pas. Mais en revanche, je pense que le tableau qu'il présente donne l'idée qu'il n'y aura pas de solution spontanée. C'est-à-dire, il me semble que là où il est, il ne peut pas avoir de l'intérieur une prise de conscience qui l'amène à se sortir des addictions et à s'élancer vers le monde. Vous voyez, parce que comme cet élan, son problème, c'est que précisément cet élan, il ne le ressent pas, c'est comme si la flamme était éteinte, sur quoi pourrait-il s'appuyer pour s'arracher de sa situation et s'élancer vers le monde? Vous voyez?
Oui.
C'est comme si, pour prendre une image, c'est comme si c'était un ressort qui n'avait pas d'élasticité. Comment faire ressort dans ce cas-là? Donc moi, je crois que ça me semble important que votre fils soit mis dans un circuit de soins.
Qu'ils soient vus par un psychologue.
Moi je pense même par un psychiatre, parce que là aussi, oui, là je crois qu'il s'agit pas de dramatiser, mais voyez, il y a un tableau clinique, c'est que c'est pas normal pour une jeune personne de 17 ans d'avoir un désir en état d'extinction et une vie qui est une sorte de bulle fermée. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de consulter un psychiatre pour qu'il y ait un bon diagnostic. Parce que tout part de là. Vous savez, quand on a affaire à un certain tableau clinique, la première chose à faire pour orienter les soins, c'est de faire un bon diagnostic différentiel. C'est-à-dire, sur quelle structure psychique sommes-nous ? Parce qu'on ne traite pas de la même façon les différents tableaux cliniques. On ne traite pas de la même façon un tableau de dépression, un tableau d'angoisse et tous les autres tableaux qui peuvent exister. Donc, je pense qu'il faut commencer par un bon diagnostic pour qu'il y ait des orientations. Peut-être qu'il aura besoin dans un premier temps de médicaments, parce que la molécule peut aider dans un premier temps. Peut-être qu'il aura besoin à la fois de traitements, de molécules adaptées, plus d'un traitement par la parole. Est-ce que ce sera par la même personne, le psychiatre, ou par un psychiatre, plus un psychologue ou un psychiatre, plus un psychanalyste? Mais là, il y a besoin d'un dispositif et je pense qu'il ne faut pas lui laisser le choix.
D'accord, parce que évidemment, je lui en avais parlé, mais bon, comme tout, il est hermétique à tout, quoi.
De toute façon, comment peut-il désirer aller vers un processus de soins si justement son problème, c'est qu'il ne désire plus rien, vous voyez?
Oui, oui.
Il est pris par la satisfaction immédiate et il vit comme ça. Donc là, dans l'état où il se trouve, on ne peut pas attendre de lui qu'un élan, une initiative ou un consentement viennent spontanément, c'est pas possible. Donc moi je pense que là, il faut l'obliger. C'est de lui dire, écoute, voilà, enfin, l'obliger sur un mode intelligent, enfin éclairé, pas sur le mode d'une force arbitraire et aveugle, mais c'est de lui dire quelque chose du type, écoute, là je vois bien que ça ne va pas. Bon, vous ne pouvez pas le faire avec son père, puisque hélas, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue possible, mais ça ressemble à quelque chose du type, écoute, je vois bien que ça ne va pas, tu n'as pas la vie que doit avoir un jeune homme de ton âge. Moi, je suis ta mère, je suis responsable de toi, je ne vais pas te regarder souffrir et couler, sans rien faire. Donc, nous avons rendez-vous avec... Moi, je pense que ce qui est bien, c'est un psychiatre, par exemple. Alors, soit un psychiatre en libéral, soit un psychiatre. Vous connaissez les CMP, les centres médico-psychologiques ?
Oui, oui, oui.
Bon, si vous le savez probablement, si vous avez déjà eu affaire à un éducateur, dans les CMP, donc ce sont des zones géographiques.
D'accord.
En fait, si vous allez dans un CMP... Bon, selon les disponibilités, mais votre fils peut être reçu Dans le premier entretien, c'est toujours avec un psychiatre. Il y a aussi des psychologues dans les CMP. Et ensuite, à partir de diagnostic, il faut qu'il y ait des orientations de traitement.
D'accord.
Ça vous, est-ce que ça vous paraît possible de, d'engager oui. ça avec lui?
Oui, oui, tout à fait. Et puis là, il le faut parce que moi, je souffre parce que j'en subis les conséquences. Je suis très malheureuse, très, très inquiète. Quoi.
Oui.
Mais... c'est très compliqué d'envisager. Et puis là, je me dis, si on doit aménager là prochainement avec mon compagnon, qu'est-ce que ça va donner quoi c'est,
Bien, moi je pense que là, comme il n'y a pas de solution spontanée, vous allez être obligé d'intervenir au nom de votre responsabilité parentale. Et d'ailleurs, bon, je crois qu'il faut commencer par lui expliquer, lui aller voir quelqu'un si possible avec son consentement. Et si jamais il ne veut pas, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que le contraindre pour son bien. Parce que, enfin, pour son bien, parce que ça ne peut pas se résorber spontanément, à mon avis, à travers ce que vous indiquez. Et vous aussi, vous avez une vie à construire. Vous ne pouvez pas avoir votre vie otage de quelque chose qui est insoluble. C'est bon pour personne.
Tout à fait, parce que là, sans vous cacher, ça met une ambiance, vous savez, c'est avec mon compagnon, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que depuis quelques mois, c'est bien sûr. C'est tendu, quoi.
Alors vraiment, appuyez-vous sur votre compagnon, prenez cette mesure ensemble. Je pense que votre compagnon, ça l'aidera à patienter, enfin, à se montrer compréhensif et patient si vous dites que vous allez chercher des solutions pour votre fils et vraiment d'engager cette démarche de soins.
D'accord.
Voilà Sandrine, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles et vraiment soyez sûre, enfin, je pense vraiment que c'est la bonne orientation. Vous ne pouvez pas vous tromper en allant par là.
Oui, ben j'y avais pas pensé, mais bon, le fait que vous me le confirmiez...
Oui. Vraiment, n'hésitez pas. Vous...
D'accord.
Oui. Donc, bon courage à vous, Sandrine.
Très bien, merci. Merci, Sabine.
Avec plaisir. Bonsoir.
Au revoir.
C'est à présent l'heure de nous quitter en remerciant pour leurs très beaux témoignages Pam, Jocelyne, Sandrine. Et pour ma part, je vous retrouve demain en direct dès 22h en vous invitant à appeler quand vous voulez le numéro de Parlons-nous 09 69 39 10 11. Si vous exprimez à l'antenne vous semble difficile, ne vous inquiétez pas, tout le monde ressent cela. Au bout de quelques instants, ça devient très simple. Vous avez seulement à penser votre question et à vous laisser guider ensuite. Alors en attendant le plaisir de vous parler, je vous souhaite une très douce nuit.